France Inter.
Hervé Le Tellier, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi écrivez-vous ?
Je crois que j'écris pour, inventer d'autres mondes, être ailleurs.
Pour qui écrivez-vous ?
Pour des gens qui sont comme moi, qui ont envie d'être ailleurs et de visiter d'autres mondes que je leur propose.
Votre mot préféré de la langue française ?
Ce matin, c'était gaufrette.
Gaufrette.
Et ça change tous les jours.
Très joli mot, gaufrette.
Gaufrette.
Une qualité indispensable pour écrire ?
Douter, je pense.
Un défaut indispensable pour écrire ?
Douter, le même.
Romancier, auteur ou écrivain ?
Romancier, non, parce que je fais d'autres choses. Écrivain, c'est plutôt un statut social, donc je préfère le mot auteur.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassem.
Bienvenue dans Etc. et bonne année à tous. Pour démarrer 2025, j'ai pensé qu'une émission autour de la folie serait de bon augure, car la folie en littérature est très souvent le masque de la sagesse. Je pense notamment au bouffon dans Le Roi Lear de Shakespeare, qui sert de révélateur à la folie du monde. Les vrais fous ne sont jamais ceux que l'on croit, ni chez Dostoïevski avec son idiot pas si idiot, ni chez Victor Hugo avec son personnage de Quasimodo, ni chez Lewis Carroll avec son chapelier toqué. On vous lira d'ailleurs un extrait d'Alice au Pays des Merveilles, c'est notre classique de la semaine. Pour m'accompagner dans cette entreprise, je me suis entourée de deux spécialistes du sujet et des gaufrettes. Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 pour L'Anomalie, une histoire complètement embarrée déjà. Hervé Le Tellier et Brossette, une galerie de portraits, les passagers d'un vol Paris-New York qui se retrouvent tous à 3 mois d'intervalle dans le même avion. Hervé Le Tellier réitère ce jeu des portraits dans un album intitulé Folie dans les folies, illustré par Martin Jarry. Dans ce beau livre, on trouve des peintures architecturales, les portraits des 18 pensionnaires d'un hôpital psychiatrique. C'est complètement absurde et si vous y comprenez quelque chose, c'est sans doute que la folie vous guette, vous aussi. Avec lui, Maëlys Bessery, romancière formée à la psychanalyse. Maëlys Bessery a aussi obtenu un prix Goncourt en 2020, la même année que vous, Hervé Le Tellier, le Goncourt du premier roman pour le tiers-temps sur les derniers mois de la vie de Samuel Beckett. Depuis, elle a publié Les Amours dispersés sur William Butler Yeats. Et en 2023, La nourrice de Francis Bacon qui clôt sa trilogie irlandaise et qui sort en poche ce mois-ci. On parlera avec elle d'une nouvelle qu'elle a publiée récemment pour la lettre Zola et qui est tirée de son expérience, les ateliers d'écriture qu'elle anime avec des patients atteints de troubles psychiques. Bref, vous l'aurez compris, il sera question d'art et de folie dans cette émission. Et nous retrouverons, comme chaque semaine, nos libraires francophones pour leurs questions et conseils de lecture. Vous écoutez, etc. C'est parti.
Etc.
Bonjour Maëlys Bessery.
Bonjour.
Et rebonjour Hervé Le Tellier. Que peut-on vous souhaiter à tous les deux pour cette nouvelle année, Maëlys ?
Une année inspirante, une année calme et une année concentrée sur l'écriture.
Et vous, Hervé Le Tellier ?
On pourrait dire pareil, parce que c'est vrai que ce qu'on cherche le plus, c'est trouver les moyens de se ressourcer chaque année. Donc je vais dire absolument la même chose que Maëlys, ça me paraît très raisonnable.
J'aimerais commencer cette émission par un petit jeu de définition. Qu'est-ce que la folie ? Comment la définir, Maëlys Bessery ?
C'est un rapport différent au réel, à la réalité. Pas au réel lacanien, hein, dont notre ami Le Tellier parle aussi dans son ouvrage, mais plutôt à la réalité. Alors, certains diront distordue, décalée, jusqu'à avoir une autre réalité complète. La folie, c'est celle-là, et c'est celle qui parfois isole, fait souffrir, et qui peut être dangereuse pour soi et pour les autres.
Donc il y a des degrés de folie.
Oui.
C'est pas un absolu.
C'est pas un absolu, et d'ailleurs on est tous un peu pathologiques d'une manière ou d'une autre, hein. On est tous un peu fous. Entre la névrose et la psychose, c'est une question essentiellement de degré, nous disait Freud, c'est pas faux, hein. Il y a quelque chose d'un grain de folie chez tout le monde, et heureusement, d'une certaine manière, qu'on n'est pas tous, ça fait partie de l'unicité aussi que d'avoir des zones comme ça difficiles. Ce qui nous sépare, c'est effectivement la capacité quand même de pouvoir faire avec cette réalité, et bien sûr la souffrance.
Et pour vous, Hervé Le Tellier, votre définition de la folie ?
Je ne sais pas si ce n'était pas Marx qui disait que les prolétaires avaient le choix entre la prison, l'asile ou la révolte. La solution de la folie, c'est effectivement une solution qui est une fuite et qui est une incapacité à composer avec à la fois le social et à la fois le psychique. Donc c'est quelque chose comme ça. Il y a des degrés, effectivement, et puis il y a aussi peut-être... Au-delà des degrés de folie, il y a aussi une capacité individuelle qu'on a de résilience par rapport à des traumas. Voilà, je ne sais pas exactement où ça se situe, et je pense aussi qu'on a tous une bonne dose de névrose et qu'on gère comme on peut.
Surtout quand on écrit, on en parlera tout à l'heure. Dans votre livre, Hervé Le Tellier, la folie se manifeste de différentes manières, mais tout de même. Il y a le personnage d'Olga, l'architecte de l'hôpital psychiatrique, qui est allée trop loin dans ses concepts au point de se faire interner elle-même, ce qui fait donc d'elle un personnage obsessionnel. Vous avez aussi un personnage qui refuse l'oubli au point d'incarner ses souvenirs dans des légumes et qui en devient fou, ce qui fait donc de lui aussi un personnage obsessionnel. Est-ce que l'obsession, c'est le terreau par excellence de la folie, Hervé Le Tellier ?
Oui, je pense que c'est en tout cas un des motifs important de la chose. C'est un livre que j'ai écrit avant tout, qui n'est pas illustré par Martin Jarry, mais qui est inverse, c'est l'inverse plutôt. C'est un livre de Martin Jarry textualisé par moi. J'avais les dessins et les peintures de Martin, et c'est à partir de ce diptyque à chaque fois, qui était à la fois un objet qu'on peut appeler architectural, mais qui peut être aussi parfois un plan ou un schéma, ou un bâtiment véritablement réalisé. Et puis de l'autre côté, l'individu qui a créé ce bâtiment, qui parfois vire à l'animal, mais qui en tout cas est clairement quelque chose d'organique, un être organique. C'est à partir de ce diptyque que j'ai réfléchi pour essayer de composer des folies sur un principe qui était que tous étaient pensionnaires d'un même hôpital. Donc on avait quand même au départ moi j'avais en tout cas quelque chose qui était une base pour travailler. Ce qui explique sans doute la manière dont j'ai constitué les récits, parce que pour prendre chacun des personnages dont j'ai raconté l'histoire, ils avaient déjà autour d'eux qui des arbres, qui des papillons, qui des oiseaux, qui des légumes justement, et je devais composer à une sorte de petit roman, petit micro-nouvelle qui expliquait leur internement à partir de ce que me fournissait Martin. Et c'est ça qui était formidable quand on travaille à partir de quelque chose, que ce soit une musique, que ce soit des tableaux, que ce soit des sculptures, qui sont trois domaines dans lesquels j'ai travaillé, c'est qu'on part d'un imaginaire qui n'est pas le sien, qui est celui d'un autre artiste, enfin d'un artiste, parce que je ne considère pas vraiment qu'on soit des artistes, nous les auteurs, mais à partir de cet imaginaire d'artiste, on essaie d'amener une sorte de cohérence globale.
C'est intéressant ce que vous dites sur le fait que les auteurs ne sont pas des artistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui. D'abord, on n'est pas dans le monde de l'art. C'est une première bonne raison, qui est une raison sociologique. Même un artiste, plus sa cote augmente, plus les œuvres qu'il a faites augmente de prix, nous, plus oui, notre réputation augmente, moins il est cher. C'est-à-dire que pour accéder à...
On arrive au livre de poche, très vite.
Un livre de poche vaut 5 euros, alors que pour accéder à un ouvrage d'artiste, ça va être de plus en plus cher. Donc on est dans un monde complètement différent, qui est la différence entre des œuvres qui vont se diffuser et des œuvres qui vont être possédées. Donc c'est déjà une première différence. Et puis la deuxième, c'est qu'on est, je me vis en tout cas comme un artisan. Quand on est à l'ouvroir de littérature potentielle, le moins important c'est ouvroir.
Louis
et dans ouvroir, c'est œuvrer et c'est presque faire de la broderie, faire de la marqueterie. Je me situe dans cet univers-là. Pour moi, la langue, c'est une sorte de glaise avec laquelle je travaille. Je me sens plus du côté du potier que du côté de Michel-Ange, quoi.
Et d'ailleurs, le fait de travailler à partir d'illustrations, ça dit aussi cela. Parce
oui,
que,
ça dit ça, oui.
Parce qu'en général, les auteurs font plutôt l'inverse. Ils écrivent des textes et puis
on
fait appel à des artistes.
Ça dépend des demandes, en fait. Hein. Quand on travaille, par exemple, dans le lyrique, j'avais travaillé avec un ami qui est récemment décédé, qui est François Ribac, avec qui j'avais fait des opéras. Et avec François, ce qu'il fallait, c'était d'abord lui fournir le texte et lui créer la musique, l'opéra à partir de mes textes. Et quand j'étais en retard, il me disait « mais je ne peux pas travailler ». Ce qui me paraissait moins aberrant, parce que je voyais plutôt la chose à l'envers. Je me disais « mais moi, si tu veux, donne-moi des musiques et je fais des textes dessus ». Et pour lui, c'était le contraire. Il avait besoin de mes textes pour travailler sur des musiques. Donc c'est vraiment un rapport à chaque fois qui est un rapport à définir lorsqu'on travaille à deux. Ce n'est pas toujours une évidence que lorsqu'on fait dans une chanson parole et musique, que la parole vient avant la musique. Mais on peut comprendre. Et pour moi, en tout cas, quand je travaille sur des documents de type graphique, de type picturaux, je trouve ça formidable. Mais j'ai fait juste avant un livre avec Kilofer, Patrice Kilofer, qui à mon avis est le prince du noir en matière de dessin, et Patrice a travaillé à partir de mes textes. Donc là, c'est l'inverse.
Maëlys Bétry, pour revenir à la question de la folie, je posais la question à Hervé Le Tellier de l'obsession comme terreau de la folie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
D'un point de vue théorique, c'est pas tout à fait juste, parce que les obsessionnels, ce sont pas les plus fous. C'est peut-être même le stade juste avant. C'est-à-dire que si on imagine que la folie ultime, elle est plutôt dans la psychose. L'obsessionnel, il se situe justement à la frontière. Hein. L'obsession va lui permettre de ne pas sombrer dans la psychose. Donc d'un point de vue théorique, c'est pas tout à fait juste. Après, c'est très impressionnant pour autrui que de voir de vrais obsessionnels, que de voir des tocs, des répétitions, le côté rituel, etc. C'est ce qu'on met en avant, ce qui a été utilisé par la fiction, du polar, voilà, les tueurs en série ont leur signature, ils sont obsessionnels. Donc c'est une sorte de trait comme ça qu'on a mis en avant, mais c'est plutôt un symptôme. Mais d'une certaine manière, l'écriture est un symptôme aussi. Hein. Avoir besoin de s'exprimer de cette manière-là, c'est aussi un symptôme. Et donc, l'obsession fait partie, mais ça n'est pas la partie la plus marquante. La partie la plus marquante, c'est effectivement quand la personnalité se scinde, donc ce qu'on appelle le moi fragmenté, voilà, qu'on rentre vraiment dans la psychose.
Et les obsessions ne permettent pas d'arriver jusqu'à une scission de la personnalité?
C'est un stade juste avant, donc on peut toujours basculer, quel que soit le point de départ, on peut toujours basculer de toute façon. Donc il n'y a pas soi et les fous. Il y a des gens qui ont basculé, d'autres qui pourraient le faire et qui peut-être le feront, ne le feront jamais.
Et puis il y a des fous littéraires.
On va en parler, on se retrouve dans quelques instants. On verra que la folie est surtout une question de mots, M-O-T-S. Les mots comme objet et comme représentation, ce qui fait de la folie une matière passionnante pour les écrivains. Mais tout de suite, musique.
Le ventilo tourne en rond pendant que je brasse de l'air, le même qu'hier, putain. Je ferme les yeux pour voir la mer. Je ferme les yeux pour voir la mer. Elle défile sur le bandeau. L'info paramilitaire, est-ce qu'ils auront ma peau? Je commence à croire que j'ai peur. Parfois y'a comme des échos, des destins paratonnerres, en manque d'avis pour l'ego. Est-ce qu'on notera qui m'enterre? Est-ce qu'on notera qui m'enterre? À quoi bon chercher les mots? Si les sirènes chantent l'histoire, à chercher qui abonde? Si l'horizon pue l'horreur, ça retournera son pullover.
C'était Hervé moins une.
Etc. Lilia Hassel.
Vous écoutez Etc. Nous sommes toujours en compagnie de Maïlys Bessery et d'Hervé Letellier. On parlait des fous littéraires juste avant le disque. Qu'est-ce qui vous fascine dans la figure du fou littéraire, Hervé Letellier?
Raymond Queneau avait travaillé pendant presque 10 ans sur les fous littéraires. Et à la fin, il s'est arrêté. Il a dit « ça n'a aucun intérêt », ce qui n'est pas vrai. Et puis, il a fait un livre qui s'appelle « Le chien dent », qui, en fait, utilise beaucoup de ses travaux sur la folie et sur le fou littéraire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est, comment dire, c'est une porte vers un type de travail obsessionnel qui n'est pas possible si on n'a pas une, si on n'a pas une petite justement
pathologie.
Obsession, pathologie. Alors parfois c'est une pathologie douce, ça veut dire qu'on va s'intéresser à la liste, qu'on va faire des listes de choses de manière obsessionnelle, mais c'est pas forcément pour autant destructeur, ça peut être constructeur.
Et là, chaque fois qu'on écrit,
plein de gens qui vont se situer à la frange extrême jusqu'à la frange douce, quoi.
Et chaque fois qu'on écrit, on est quand même obsédé par une idée.
Bien sûr, et je pense à des livres. Alors, il y a un livre écrit par Ivar Svavar qui s'appelle « L'anthologie des fous littéraires du nord de la France et des crétins », dont je conseille la lecture.
C'est un très beau titre.
Et qui, surtout, est un ensemble de textes faux écrits par plusieurs individus qui sont des joueurs et qui ont inventé des faux personnages. Mais il y a aussi d'autres textes, je pense à Bolaño, par exemple, avec la littérature nazie en Amérique, qui raconte des folies littéraires d'écrivains qui sont nazis et qui sont simultanément des gens qui tentent de rentrer dans le monde littéraire avec cette obsession du nazisme qu'ils tournent en dérision de manière magnifique. C'est un excellent sujet, en fait, malgré tout, de roman, mais simultanément, c'est vrai que l'examen concret de chacun des travaux des fous littéraires finit par devenir un peu inquiétant. Donc,
Et vous, Maëlys Besserie, vous vous êtes intéressée à un fou littéraire en particulier, Samuel Beckett.
Oui, alors, dont sa pathologie d'ailleurs, a d'ailleurs fait débat. Hein. Il y a ceux qui l'ont pensé schizophrène, d'autres pas du tout. Bon, il se situe dans une limite comme ça qui n'est pas toujours facile à cerner. Après, si on reprend l'idée des catégories de folie qui ont été recensées par Freud au départ, hein, psychose, névrose et perversion, ces trois catégories existent en littérature. Hein. Voilà, pour la perversion, alors ça fait débat, mais on pourra difficilement faire mieux que Shakespeare quand même en la matière. Voilà, grand maître, mais bien avant lui, Eschyle, de ce même côté. Hein, donc toujours, le lecteur et finalement le spectateur se retrouve souvent dans cet endroit de perversion où lui-même jubile de savoir avec Richard III voilà, toutes les saloperies qu'il s'apprête à faire. Donc il y a quand même ce côté communication avec le public sur une entreprise comme ça, connue uniquement par le spectateur et le dramaturge et dont les autres personnages vont en faire les frais devant nous. Donc il y a cette participation à la perversion collective, comme ça, qui est assez fascinante. Et d'ailleurs, peut-être que les plus grands artistes ne sont pas forcément ceux qui ont réussi à faire ce qu'on appelle la sublimation, c'est à sublimer en littérature. On attend toujours ça, hein, des artistes. C'est-à-dire que finalement, cette pulsion qu'ils ont du mal à gérer, cet excès de pulsion sexuelle, soit converti dans quelque chose...
Mais pas obligé de le convertir.
Voilà, qu'il soit converti dans quelque chose de non sexuel et qui serait l'écriture et qui serait une forte d'achèvement, alors pour d'autres ça sera la peinture, etc. Mais finalement, c'est peut-être les écrivains qui subliment le moins, c'est-à-dire ceux qui gardent leurs symptômes et qui en font une forme littéraire, qui sont parmi les plus grands écrivains. En tout cas, tout existe.
Donc il ne faut pas faire de psychanalyse quand on écrit ?
Ah si, c'est tout à fait possible. Mais ça n'empêche pas de garder ces zones névrotiques et psychotiques.
De les préserver.
De manière très sérieuse, je pense quand même que la psychose ouvre aussi des nouvelles visions. Hein, et donc, elle élargit le champ. Et donc, en ce sens-là, elle est, je veux dire, structurellement créative. Hein, parce que le fait d'entendre des voix, de voir des choses, vous fait accéder à des univers qui sont plus larges en fait que ceux que l'on perçoit par nos sens.
Hervé Le Tellier, pour que nos auditeurs comprennent bien ce qu'est votre livre Folie dans les folies, on y trouve le portrait donc de 18 patients d'un hôpital psychiatrique. Pour les soigner, les psychiatres leur demandent à chacun de construire une sorte d'architecture mentale, ce qui donne lieu à des illustrations surréalistes. Est-ce que le projet, même si vous nous avez expliqué que en fait, tout est parti des dessins et que vous êtes allé ensuite vers les textes, est-ce que l'idée, c'était quand même de donner une structure à ce qui n'en a pas, par définition, la vie de l'esprit ?
Alors, il y a une structure dans le livre lui-même. Je ne sais pas si mon projet était de structurer la vie de l'esprit, j'en suis bien incapable. Mais en tout cas, c'était de me donner des contraintes, à la fois narratives, à la fois fictionnelles, pour achever le projet et lui donner une cohérence finale, en explorant toute une série d'obsessions qui vont du côté animaux en voie de disparition, en passant par effectivement la dimension légumière, trop oubliée en littérature, en allant jusqu'au chien des poètes disparus. Donc ça m'intéressait.
Vous aimez travailler à partir de contraintes ?
Oui, j'aime bien. Oui, oui. Bon, d'abord, j'aime bien travailler avec
les contraintes. De Louis-Dippo aussi.
Alors, souvent, les contraintes, ce sont des choses qu'on s'impose. Et quand elles sont imposées de l'extérieur aussi, ça peut être intéressant.
Alors, on est plutôt du côté du surmoi. Hein. On est du côté de la névrose et du surmoi.
Oui, j'assume complètement. Ce qui est intéressant dans le travail à partir d'un objet déjà existant, c'est justement qu'on est forcé de composer avec une psyché qui n'est pas la sienne. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse à chaque fois. Quand je parle de musique, quand je parle de peinture, je suis forcé de me demander, non pas ce qu'il a dans sa tête, l'auteur de ses peintures ou de ses musiques, mais qu'est-ce que moi je peux en faire. Donc abandonner même le projet d'analyser ce qui a été le motif de la création de l'objet, mais de me dire qu'est-ce que cet objet m'apporte. Ce qui fait que c'est en fait une esthétique de la réception, de ma propre réception des peintures, qui va motiver mon écriture. En fait, ce que j'essaie, c'est de ne pas trahir en même temps le projet de Martin. Donc quand j'ai travaillé avec Martin Jarry, je lui ai envoyé à chaque fois en lui disant « Est-ce que tu penses que je suis à peu près dans ce que tu imaginais ou pas ?» Et lui était dans cette même démarche de dire « Après tout, si lui le voit comme ça, c'est pas plus faux. » Et c'est assez logique parce que moi-même, quand un lecteur m'explique mes livres, souvent je lui dis qu'il a raison parce que c'est pas moi le meilleur analyste de mes propres livres. Donc,
L'exact de votre livre, Hervé Le Tellier, c'est une citation de la Métamorphose de Kafka. Et parmi tous vos personnages internés, vous l'avez dit, plusieurs se métamorphosent en légumes ou en animaux. C'était ça la contrainte ?
C'était une des contraintes, il y en avait plusieurs, et puis je fais partie des écrivains oulipiens qui cachent le cahier des charges, qui ne racontent pas comment ils ont construit, même quand Pérec a fait La vie mode d'emploi, il avait en fait caché son cahier des charges, on l'a trouvé après sa mort, et c'est devenu, hélas...
Le vôtre est caché ?
Le mien est détruit, carrément, donc voilà. La logique, c'était effectivement de réfléchir à partir de chacun des objets, disons, dessinés, pour le dire simplement, qu'avait fait Martin, qu'est-ce que moi ça pouvait m'inspirer. Avec parfois une très grande difficulté à trouver un biais pour attaquer le dessin lui-même qui me paraissait obscur et qui soudain, je trouvais une sorte de faille à l'intérieur de cet objet clos et j'élargissais la faille et je trouvais quelque chose. Il y en a un en particulier qui m'a paru compliqué, c'est un individu qui a des dizaines d'yeux. D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est un dessin qui, moi, me troublait. Une sorte de trypophobie, la peur des trous, la peur de tout ce qui est la multiplication. Et donc, on est devant ce dessin, on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. C'est à force de chercher qu'on trouve un biais pour rentrer à l'intérieur. Et moi, je trouve ça vraiment très intéressant.
Et si je me souviens bien, c'est l'obsession de la maternité qui est derrière.
L'obsession de la maternité, oui.
Baylis Besrich, en écoutant Hervé Le Tellier, je me disais que ce serait un très bon exercice pour vos patients de partir aussi des dessins. Je sais pas si c'est un exercice.
Alors parfois je le fais. C'est vrai que dans les ateliers d'écriture, donc en milieu psychiatrique, ça m'arrive de partir, par exemple, je me souviens d'un exemple d'un t-shirt d'un patient qui avait comme ça un visuel très fort sur son t-shirt, et de partir d'une sorte de visuel de manga comme ça, d'un chat qui mordait une main. Et donc cette idée du chat qui mord la main, c'est devenu le sujet d'un exercice. Donc il peut arriver, la plupart du temps je travaille avec ce qui jaillit du groupe, du début de la conversation, quelque chose qui sort dans le vocabulaire et qui me fait penser à quelque chose. Mais parfois, c'est surtout les visuels de leurs vêtements qui me donnent des idées. Donc, quelque chose qui est marquant dans la manière de se présenter et qui, du coup, peut permettre d'imaginer une petite expérience littéraire autour de ça.
Hervé Le Tellier, on a l'impression que ce livre, c'est aussi un panorama de vos mondes intérieurs. De quel patient vous vous sentez le plus proche ?
Peut-être de celle qui construit une niche gigantesque pour les chiens des poètes et écrivains disparus.
Il y a le chien de Sagan.
il y a le chien de... Non, c'est pas le chien de Beckett, ou le chat de Beckett. Voilà, et je suis assez proche de ça, c'est-à-dire l'idée de créer des havres pour des êtres disparus, je trouve ça assez intéressant.
Dans l'émission, Hervé Le Tellier, on accueille des libraires, et on en a une qui a tenté de repérer toutes les références picturales, notamment, qui se cachent dans votre livre. Il s'agit d'Annick Vermeaux, de la librairie Zalactoré à Martigny, en Suisse. Annick Vermeaux, bonjour.
Mais un radieux bonjour de Suisse.
Bonjour, le livre d'Hervé Le Tellier et Martin Jarry vous a décontenancé.
Oui, c'est un bel ovni qui est arrivé à la librairie. Au premier coup d'œil, je l'aurais, sans l'ouvrir, classé dans les livres jeunesse. Mais en observant un peu plus attentivement le propos, l'objet, je me suis mis à douter. A fortement douté. Un grand point d'interrogation s'est dessiné au-dessus de ma tête et j'ai maugréé en prenant l'ouvrage, en me disant que les éditeurs devenaient vraiment bien déraisonnables avec la littérature enfantine. J'ai donc ouvert le livre, je me suis glissée à petits pas dans l'asile à la rencontre de ces architectes à la réalité tordue. Et je me suis retrouvée coincée dans un monde à la Magritte ou à la Dali. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'art, eh bien vous savourerez ces illustrations, car il y a plein de clins d'œil aux grands peintres d'Archimboldo, l'art médiéval avec ses perspectives inversées, Fernand Léger, Chagall par exemple. Et je me suis prise à rire sur le fait que ces personnages au métier si respecté et si respectable ne dessinent plus que des bâtiments qui ne tiennent pas debout. Plus ma lecture avançait, plus je me rendais compte que l'ouvrage que j'avais entre les mains était en fait une histoire pour les grands. Et quelle idée saugrenue que j'avais eue de le mettre dans la jeunesse. J'ai donc souri à cette folie éditoriale, car proposer à des adultes de délirantes histoires dans ce format est une véritable gageure. Vous m'avez posé un immense défi avec cet ouvrage. Où est-ce que je vais bien pouvoir le classer pour le ranger? Ou alors vous avez eu un coup de génie qui avait encore resté un moment dans les nouveautés tellement il est inclassable. D'où ma question. Vous le classeriez où justement?
C'est une excellente question. Et c'est même un arrachage de cheveux qu'on a eu avec Martin. On sait pertinemment que c'est pas un livre pour enfants. Ni les dessins, ni l'écriture ne le destinent à être en rayon jeunesse, a priori. En même temps, on pense qu'il pourrait s'y trouver, que ça ne poserait pas de problème majeur. Malgré un texte relativement sexuel.
Oui, il y a un ou deux textes même.
Oui, peut-être deux textes qui sont paraboliques, métaphoriques de la sexualité. Je pense que c'est ce qu'on appelle un beau livre. Ça rentre dans les beaux livres, en tout cas chez Gallimard. Donc on a accepté cette définition. C'est effectivement un livre un peu un olni, quoi, un objet littéraire non identifié, ou un opni, un objet pictural non identifié, ou un opni. Voilà. C'est compliqué.
Déjà, l'anomalie était assez inclassable.
Oui, c'est ça. C'était inclassable, mais il avait cet avantage d'être identifié par au moins le type de couverture, la collection où il se situait. Et donc, ça donnait quand même des indications au lecteur.
Hervé Letellier, Maëlys Besserie, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, vous répondrez à une question toute simple, mais néanmoins compliquée. Faut-il être un peu fou pour écrire ?
Je me souviens d'une terre brûlée alentour, d'une vallée de larmes où chacun cherchait l'amour. Je me souviens des frémissements les plus légers. Je me souviens. En demi-conscience, j'allais au fond des ténèbres. Sous ta robe blanche, la nuit est surnaturelle. Je me souviens d'une voile tendue au fond de la nuit. Je me souviens. Je me souviens d'un demande dans l'univers. Je me souviens de l'appel de la lumière. D'une dame en noir qui gifle le loup des mers. Je me souviens. Je me souviens par l'abri dans l'obscurité. Je me souviens de l'altitude où je me trouvais. Je me souviens boire dans un même ruisseau. Je me souviens. Je me souviens d'un assassin dans la montagne. Une digue, un pont, la bataille de Wagram. D'une milanaise et d'un qui vient à mourir. Je me souviens. Je me souviens de matins passés hors de France. Je me souviens du regard des gens de Florence. Je me souviens de savants de main de bourreau. Je me souviens. Je me souviens que le cœur frémit d'amour, que l'amour s'en va si orgueil avec amour. Je me souviens qu'on me déshabille à la nuit. Je me souviens. Je me souviens du parfait vassal que j'étais. pensant ta voix basse, pourquoi veut-elle me tuer? Je me souviens comme agité de tremblement, je me souviens. Je me souviens que le père venait de mourir d'une armée anglaise piétinant mes souvenirs. Je me souviens de Murat aux portes de Naples. Je me souviens. 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 Je me souviens, je me souviens, je me souviens.
On vient d'écouter Jean-Louis Murat, Je me souviens.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, etc. Lilia Hassen.
Vous écoutez etc. et nous sommes toujours en compagnie de nos romanciers toqués, Maëlys Besserie et Hervé Le Tellier. Faut-il être un peu fou pour devenir écrivain ? Maëlys Besserie, dans votre nouvelle, vous écrivez « Se prendre pour un autre se révèle indispensable pour pouvoir décaler l'histoire, la langue, faire dérailler le tout, le distinguer de la vie ordinaire. Bref, écrire exige qu'on ait un grain. » On en a déjà un peu parlé, mais j'aimerais qu'on approfondisse cette idée.
Bah pour plusieurs raisons. Hein. Premièrement, parce que sinon on s'ennuie, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui a déjà été fait 1000 fois et peut-être 1000 fois mieux avant soi. Donc il y a quand même ce risque. Quand on veut s'approcher de soi en tant qu'auteur, je pense qu'il faut quand même partir de ce matériau assez inconscient. Alors, folie ou pas, en tout cas matière brute psychique, partir de là. Et je pensais, dans ce que disait Hervé Le Tellier, à toute cette question de la méthode, de la forme, voilà, qui est très importante pour les oulipiens. Mais finalement, c'est toujours organiser la matière psychique traumatique, pour la plupart du temps, hein. En tout cas ce matériau-là un peu brut, de lui donner une forme, et peut-être en le répétant, en le déclinant sous plusieurs formes, essayer de lui trouver, essayer d'évacuer le traumatisme par cette forme-là. Alors la forme, elle a beaucoup de sens, parce que finalement, plus le propos, plus le point de départ est diffus et fou, plus on va avoir besoin justement d'une forme qui va tenir le tout. Hein, c'est la question de tenir en fait. Et l'écriture, c'est un support merveilleux pour tenir, parce qu'il y a cette magie des mots qui permettent justement d'en faire quelque chose, et quelque chose qui tient. Alors une histoire, soit qui avance de manière structurée, soit des associations de mots qui vont permettre par la musique, par le son, par la rime, par diverses formes d'ailleurs de musique, de faire rentrer comme dans une sorte de mantra, hein, le lecteur dans quelque chose qui va l'immerger et peut-être lui faire toucher du doigt quelque chose de l'univers psychique de l'auteur, pas forcément son histoire, mais quelque chose de son univers intérieur, hein, de ses couleurs intérieures.
Hervé Le Tellier, où se situe votre folie à vous ?
Moi, je pense que c'est une grande insatisfaction de la vie. C'est-à-dire que si je crée des univers un peu bizarres, c'est parce que je pense que la vie est un peu ennuyeuse. Alors, c'est peut-être ma vie qui est un peu ennuyeuse, hein. Mais c'est possible, j'assume parfaitement la chose. Bon, mais en tout cas, tant mieux, parce que d'une certaine manière, ben, ça me pousse à m'installer à mon bureau et à travailler pendant relativement longtemps, de manière solitaire. Il y a quelque chose de... Enfin, ce qui est le plus caractéristique dans le métier d'écrivain, c'est la solitude. En tout cas, pour moi, c'est la recherche d'une autre vie et d'autres vies possibles.
C'est vrai que, personnellement, j'ai un peu l'impression de recevoir beaucoup de livres qui se ressemblent. Comment on fait pour ne pas écrire comme tout le monde, Hervé Le Tellier ?
Ben, y a plusieurs dangers qui menacent les écrivains. Et pour moi, il y en a un qui est supérieur à tous les autres, c'est de se répéter. C'est-à-dire, c'est pas tellement d'écrire comme tout le monde, ça c'est pas grave, d'écrire un peu comme tout le monde, mais c'est surtout de refaire le même livre, ou de vouloir refaire le même livre, ou d'être tenté de... Moi, j'ai pas cette démarche-là, j'essaie toujours de faire quelque chose de neuf, mais c'est même pas que j'essaie, c'est que si je faisais ce que j'ai fait avant, j'aurais un peu peur de retomber dans le même sillon, etc. En écoutant ce que disait Maëlys Besserie sur... la répétition, et sur Baudelaire, j'ai pensé tout de suite au pantoum, qui est une des formes poétiques dans lesquelles on joue à la fois sur la répétition et on joue aussi sur la mélodie.
C'est une formule magique, hein, d'une certaine manière, comme ça, hypnotique.
Oui, c'est ça. Il y a une sorte d'hypnose dans le pantoum à cause de cette répétition. Je vous rappelle ce que c'est que le pantoum, parce que peut-être on n'est pas forcément
pour les
savoir.
Auditeurs.
Mais non, mais c'est vrai. C'est une forme qu'on pratique souvent à l'Oulipo, mais qui est magnifique parce que on reprend à chaque fois dans les vers 1 et 3, les vers 2 et 4 du quatrain précédent. Donc c'est 1, 2, 3, 4, mais le vers d'après va commencer par 2 et 4. Et ça fait finalement une sorte de roulis, une sorte de vague qui fait que quelqu'un qui écoute un pantoum est pris dans une sorte de litanie.
Une sorte de transe, presque.
Et c'est quelque chose qui est assez proche de ça. C'est une forme qui, dit-on, est malaise. Alors, ça fait rire de penser effectivement à la bisémie du mot malaise.
Malaise, oui.
Mais bon, c'est une forme qui vient de Malaisie. Mais il y a des formes comme ça qui nous viennent beaucoup plus prosaïquement du Moyen-Âge, comme la ville Lannel, dans laquelle il y a cette répétition permanente. Et je trouve ça, moi, très intéressant, parce qu'il y a ce côté, effectivement, lancinant, et qui est proche, effectivement, d'un côté répétitif et hypnotique. De la mélodie poétique.
Bah, le travail poétique, il est souvent fondé là-dessus. Hein. Je pense à William Butler Yeats. Il a justement essayé d'avoir accès à d'autres univers un peu fous, un peu transcendantaux, etc., à travers diverses techniques orientales et
la
autres.
La drogue,
alors des consommations, alors Yeats, pas trop, mais c'est surtout avoir accès à d'autres univers pour renouveler les visions. Et ça, je pense que c'est aussi une quête, alors en particulier des poètes, hein, que de trouver aussi la forme. C'est vrai qu'il y a cette phrase de Rousseau, hein, c'est une sorte de folie que d'être sage au milieu des fous. Je pense que la question, elle se pose en tous les sens. Je pense que la grande erreur, c'est de penser que ce sont des mondes différents, celui de la folie et autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la question de l'inhibition. Et que l'inhibition en art, elle n'est jamais bonne. Et que la liberté, elle n'est pas forcément du côté de la folie, parce qu'on est entravé dans sa douleur aussi, on est entravé dans sa... La folie, c'est une autre forme, d'une certaine
manière. Il
faut
quand même une part d'inhibition dans l'art.
Il faut une part d'inhibition, mais pas trop grande. Sinon, on n'avance pas, quoi.
Maëlys Bessery, j'aimerais qu'on entre plus en détail dans votre texte. Il s'appelle « Les mots sont patients ». C'est une nouvelle éditée par la lettre Zola. Le principe, vous vous abonnez, chaque mois vous recevez un texte inédit d'une cinquantaine de pages d'un écrivain. Vous, Maëlys Bessery, vous avez décidé d'écrire à partir des ateliers d'écriture que vous donnez à des patients atteints de troubles psychiques. En quoi les ateliers d'écriture sont-ils utiles en psychiatrie ?
Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un cahier des charges thérapeutique, ce n'est pas tout à fait ça. Ce que moi, j'ai constaté, c'est que ça vient stimuler l'élan vital. Ça, c'est très fort, notamment pour des patients fatigués, un peu dépressifs. Il y a quand même ce côté, c'est difficile d'être à l'hôpital, c'est des moments très difficiles. Et finalement, l'atelier d'écriture, c'est un moment de délire collectif. Hein, c'est-à-dire qu'on part de ce qui se dit et on écrit à partir de ce qui se dit et on invente ensemble. Il y a quelque chose d'une communication et ça devient, alors ce que Winnicott appelle la transitionnalité, c'est un grand espace comme ça de transitionnalité dans lequel tout le monde joue. Et moi, la première, ce qui fait que je sors toujours très, très animée, enthousiaste et pleine d'énergie de ces ateliers, parce que j'ai eu autant de plaisir, en fait, qu'eux. Puisque l'idée, c'est justement sûrement pas de donner un cours, mais plutôt de proposer pour que les choses s'ouvrent. Et finalement, on crée ensemble. Et ça, c'est très beau.
Donc les patients ont, eux aussi, besoin de sortir d'eux-mêmes.
Mais ils sortent pas du tout de même quand ils écrivent. Alors soit effectivement ils arrivent à rassembler les divers fragments de leur personnalité. Alors parfois on le voit d'ailleurs hein, selon les exercices proposés, on voit que les personnages se scindent, que on a un homme et un animal en même temps, qui sont dans plusieurs positions en même temps. Certains qui écrivent toujours en il, d'autres qui écrivent toujours en je. Bon, on voit bien que la question du moi elle est travaillée. En fait, ils écrivent avec eux-mêmes. De toute façon, on peut pas faire autrement. Je veux dire que à l'hôpital psychiatrique ou ailleurs, on est bien obligé de partir de soi. Sauf que de cette manière-là, c'est comme une sorte de patte qui vient les lier. Quoi. L'écriture propose justement d'en faire une histoire. Et le fait d'avoir cette possibilité par le langage de faire une histoire, alors c'est vrai que les pathologies, elles paraissent évidentes. Quand on entend les histoires, on pourrait diagnostiquer, si on voulait le faire, et ce serait très mal, on pourrait diagnostiquer très vite hein, avec les textes. Mais c'est pas tellement l'idée, parce que là, on se rend compte que parfois, des grands délirants qui rentrent dans la salle, et les autres parfois soupirent en se disant « qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? Qu'est-ce qu'on va faire avec elle ?» font des textes célestes absolument incroyables, et finalement, on mouche tout le monde.
Alors j'aimerais maintenant qu'on entre dans l'univers d'un auteur qui aurait pu faire partie de l'Oulipo. Il s'agit de Lewis Carroll et Estelle Gap qui m'aident dans la préparation de cette émission Adore Alice au Pays des Merveilles. Bonjour Estelle, tu voulais nous parler de ce grand classique de la littérature et nous donner envie de le lire ou de le relire.
Bonjour Lilia, bonjour à tous. Maëlys Bessery, vous évoquez dans votre texte l'humour français. S'il y a bien un lien entre humour et folie, il existe aussi, chez nos voisins anglais, à travers la notion de « nonsense so British » qui flirte avec l'absurde. Et oui, Lilia, je me suis souvenue d'Alice, une grande figure de la littérature du nonsense. Elle ressemble à l'un de vos personnages, Hervé Le Tellier, que j'ai beaucoup aimé, l'homme-arbre, enchevêtré dans ses paradoxes. Au cours de ses aventures, Alice se met soudain à grandir, jusqu'à dépasser la cime des arbres et caresser leur feuillage, comme du gazon anglais, bien sûr. Alice au pays des merveilles. Est-elle merveille ou monstre? That's the question, isn't it? Tantôt, la fillette se met à grandir, tantôt à rapetisser, à tel point qu'elle ne sait plus très bien qui elle est, ni tout à fait enfant, ni encore adulte.
Ce roman, publié en 1865, il y a tout juste 160 ans donc, n'a pas pris une ride. À qui le recommanderais-tu, Estelle?
Eh bien, je le recommande à tous les ados, et oui, qui, comme Alice, cherchent à apprivoiser leur corps et à trouver leur juste place dans un monde de plus en plus fou. Oui, un monde où l'on court après le temps, comme le lapin blanc, ou comme le dit le maître Chapelier, nous sommes tous fous. Mais l'important, c'est oser sortir de son terrier et dénoncer, comme Alice le fait, la tyrannie des reines sans cœur et l'injustice des législateurs. Car Alice, ce n'est ni le conte Fleur Bleue de chez Disney, ni la fable fantasy rock de Tim Burton. Lucide et courageuse, elle nous invite à traverser le miroir de nos illusions et à remettre le monde à l'endroit. En ce début janvier, Lilia, il est donc temps de remettre nos montres à gousset à l'heure et de se souhaiter le meilleur des mondes possibles.
Merci Estelle. Maëlys Bessery, est-ce que vous aimez l'univers de Lewis Carroll?
J'adore, je suis fascinée par Lewis Carroll et particulièrement par ce texte-là que j'ai lu et relu et vu au théâtre et que je trouve absolument éblouissant.
Bah écoutez, je vous laisse nous le lire alors.
Je vous lis un petit extrait. Alice poussa un soupir de lassitude. « Je crois que vous pourriez mieux employer votre temps, déclara-t-elle, que de le perdre à poser des devinettes dont vous ignorez la réponse. « Si tu connaissais le temps aussi bien que moi, dit le chapelier, tu ne parlerais pas de le perdre, comme une chose. Le temps est un être vivant. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, répondit Alice. « Naturellement, s'exclama-t-il en rejetant la tête en arrière d'un air de mépris. « Je suppose bien que tu n'as jamais parlé au temps. » « Peut-être que non, répondit-elle prudemment. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je batte les temps quand je prends ma leçon de musique. Ah, cela explique tout. Le temps ne supporte pas d'être battu. Si tu étais en bon terme avec lui, il ferait presque tout ce que tu voudrais de la pendule. »
C'est génial, le temps ne supporte pas d'être battu, Hervé Le Tellier.
Pour moi, si, c'est un énorme inventeur de langage. Hein. Je repense à ce poème qui s'appelle Le Jabberwocky, qui commence par « T'was brillig, and the slavey tove did gyre and wire in the graves ».
Ça fait du bien d'entendre
c'est,
en anglais.
Non, mais c'est un poème très amusant parce qu'il invente tous les mots et que le travail de traduction de ce poème a été une gageure pour des dizaines et des dizaines de traducteurs. Donc voilà, c'est un formidable livre. C'est une série de formidables livres, en fait, avec des imaginaires et parfois des formules mathématiques cachées, des réflexions sur la physique, sur le monde, sur voilà, le chat de Cheshire, le sourire du chat de Cheshire reste quand même une...
C'est comme vous aimez bien cacher... Cacher des petites formules mathématiques dans vos livres.
Derrière sa moustache.
Voilà, ça fait une affection particulière pour Lewis Carroll, Monsieur Dodgson.
Plus d'un point de vue des folies, on est du côté aussi des addictions. Et chez les fous, il y a parfois ces grandes capacités de lier plein de disciplines. Il y a justement l'intérêt pour la philosophie aussi, pour les mathématiques, etc. Donc cette vision d'ensemble aussi.
De l'art, des drogues.
Des drogues, voilà, exactement, que propose la littérature.
Dans quelques instants, on retrouve nos libraires francophones pour leurs conseils. De lecture, des coups de cœur autour de la folie, forcément.
Thank you.
Éloi, Aquarius.
Lilia Hassen, etc.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission etc. Et c'est l'heure de retrouver nos libraires pour leur coup de cœur de la semaine. Et j'accueille cette semaine deux libraires très inspirés par la folie. Damien Cour de la librairie Brin d'Acier à Bruxelles. Bonjour Damien.
Oui, bonjour Lilia.
Et je salue Marianne Bettina de la librairie L'Astragale à Lyon. Marianne, quand on vous a parlé d'une émission autour de la folie, vous avez pensé à un premier roman qui sort très bientôt et qui est déjà un énorme coup de cœur pour vous.
Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Oui, je voulais parler d'un premier roman qui est à paraître en février, mais j'étais très impatiente d'en parler, donc voilà, c'est l'occasion. Dans ce roman, le traitement de la folie féminine est questionné et décortiqué, donc je trouvais que c'était aussi une autre manière de parler de la folie. Il s'agit de « Mon vrai nom est Elisabeth » d'Adèle Yon, aux éditions du Sous-Sol. C'est un roman hybride qui oscille entre récit personnel, enquête familiale et histoire scientifique. Et j'ai été complètement saisie par ce texte qui est à la fois glaçant de vérité, enrageant d'injustice, mais irrésistiblement captivant. La narratrice est une jeune chercheuse hantée par l'histoire cachée de son arrière-grand-mère, Betsy. Betsy était une adolescente enjouée, une amoureuse passionnée, une jeune mère dépassée. Et à la suite de sa deuxième grossesse, elle sera internée par notamment sur la demande des hommes qui l'entourent. On est dans les années 40, la lobotomie et les électrochocs sont le traitement révolutionnaire à essayer. Et il faut essayer de la remettre à sa bonne place. Pour la préserver d'elle-même, il faut tenter ces nouveaux traitements. Adèle Yon, la narratrice, on ne sait pas trop, débute alors une sorte d'enquête dans les archives familiales. Adèle rencontre ses aïeux et les femmes de la famille. Elle recueille leurs souvenirs, leurs regrets. Elle enquête aussi sur les techniques médicales de l'époque et leur utilisation. Mais surtout, elle s'inquiète de l'hérédité de cette folie féminine, des traumatismes transgénérationnels, et elle veut exposer au grand jour le secret de famille pour sauver sa peau. Ou on pourrait dire sauver sa tête, plutôt, dans ce contexte.
Merci Marianne Bettina. Donc si vous habitez à Lyon ou près de Lyon, je crois savoir que vous avez déjà programmé une rencontre à la librairie avec l'autrice. Ce sera donc à la librairie L'Astragale. Le titre c'est « Mon vrai nom est Elisabeth » d'Adèle Yon aux éditions du Sous-Sol. Adèle Yon qui est aussi toquée à sa manière puisqu'elle est cuisinière dans la Sarthe. Comme c'est une primo-romancière, je voulais vous poser une question, Hervé Le Tellier. Quel conseil vous donneriez à un jeune auteur ?
Jamais se décourager. Non, c'est vrai. C'est le principal conseil qu'on puisse donner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer d'avoir un succès au premier roman, et si la passion est présente, il faut continuer.
Et vous, Maïlis, qui êtes psychanalyste,
Bah moi, n'ayant pas de cabinet, j'ai pas ce problème, hein, puisque ma pratique mélange justement l'écriture. Mais c'est vrai que je trouve que c'est... Moi, je me suis appuyée sur des figures finalement assez psychotiques pour écrire aussi. Hein. C'est vrai, écrire sur Beckett. Alors, Bacon, on est plus du... Effectivement,
est-ce que vous aimez vous amuser aussi?
Bah, m'amuser, mais aussi, je pensais à ce que disait Hervé Le Tellier tout à l'heure sur les images. C'est-à-dire que moi, j'ai expérimenté ça en travaillant sur les peintures de Bacon aussi. Pas uniquement, mais c'est vrai que le fait d'entrer dans l'univers visuel de quelqu'un. Alors effectivement, on n'entre probablement pas vraiment dans son univers, hein. On entre dans son univers à soi, par l'univers de l'autre. Enfin, il y a quelque chose en tout cas d'un dialogue. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a accès à des nouvelles choses. On ne regarde plus les peintures de la même manière, surtout si on prend le temps d'y rester longtemps et de s'y plonger. Et je trouve que finalement, ces expériences un peu folles dans l'écriture que de rentrer en communication avec des êtres parfois très instables, parfois pas toujours aimables, difficiles, etc. C'est le cas de Francis Bacon. C'est beaucoup moins le cas de Beckett, qui est un être plus, voilà, plus aimable, en tout cas envers les autres, mais complexe malgré tout. Yeats, c'est encore une autre paire de manches. Mais en tout cas, voilà, d'accéder à des mondes très lointains, parfois un peu magiques aussi, je trouve que c'est une richesse, l'idée étant d'innover.
De nouvelles idées. Voilà,
voilà, d'innover.
Damien Cour, vous avez opté pour un classique de la folie qui rejoint l'ouvrage d'Hervé Le Tellier sur bien des points.
Oui, il y a... Moi, je ne sais pas si le livre que j'ai choisi est déjà un classique, puisqu'il est paru tout récemment, lors de la dernière rentrée de septembre, mais son auteur, oui, est devenu un incontournable de la littérature contemporaine. Il s'agit de l'immense écrivain hongrois László Krasznahorkai. Donc le livre, il s'intitule « Petits travaux pour un palais ». Il est sorti chez Cambourakis et il explore une question peut-être aussi ancienne que la littérature elle-même. Est-ce que l'authenticité artistique passe par l'isolement, ou autrement dit, est-ce que les génies sont nécessairement confrontés à l'incompréhension du monde? Alors le narrateur de ce roman, lui, il est pourtant loin d'être un génie, c'est un bibliothécaire, un homme terriblement banal, et qui tient d'ailleurs à tout prix à se présenter comme tel. Sa seule caractéristique notable, et encore, il ne l'a pas choisi, c'est qu'il s'appelle Herman Melville, comme le grand écrivain, mais sans E. Donc il partage un patronyme, mais ça s'arrête là. Parce que Melville, le bibliothécaire, n'a absolument aucune ambition, si ce n'est celle de consigner des notes, des pensées dans un carnet. Et évidemment, c'est justement ce carnet qui nous est donné à lire. Alors moi, ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre, c'est que la folie n'est pas seulement une thématique, mais elle devient vraiment une véritable méthode narrative. On est face à un roman composé d'une phrase et qui s'étire sur une centaine de pages et qui nous embarque comme ça dans une pensée à la fois délirante et brillante par sa singularité. Donc à travers le roman, moi j'ai vraiment eu l'impression comme ça d'être plongé par instant dans un flux de conscience qui frôle l'hypnose et d'expérimenter en fait comment l'écriture elle-même peut devenir le reflet de la folie qu'elle dépeint.
Ça vous plaît ça, Hervé Le Tellier?
Oui, j'adore. Oui. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Hein. Donc,
c'est ce que j'allais vous demander, vous le connaissez?
Oui. Je ne me souviens plus des derniers titres que j'ai lus de lui, j'ai trouvé ça très bien. Et Cambourakis, c'est un très bon éditeur avec un très bon choix de traducteur aussi.
Et Petits travaux pour un palais, ça aurait pu être le titre de votre livre.
Absolument. D'ailleurs, ce sont des palais mentaux qu'on définit à l'intérieur.
Merci Damien, merci Hervé Le Tellier, merci Maëlys Bessery. C'est déjà la fin de cette émission. Je conseille à nos auditeurs vos livres, tous vos livres. Votre album Hervé Le Tellier est paru chez Gallimard. Il s'appelle Folie dans les folies. Les illustrations sont magnifiques, mais je préfère prévenir que le tout est un peu opaque. Enfin, je crois que c'était voulu. Et pour les amateurs de jeux de pistes, de jeux de mots, pour tous ceux qui ont de l'humour, tout simplement, c'est un bel ouvrage à offrir. D'humour, Maëlys Bessery n'en manque pas non plus. Abonnez-vous à la lettre Zola pour recevoir son texte. Vous ne serez pas déçus. Et je vous conseille également sa trilogie irlandaise chez Gallimard au style impeccable. Je rappelle qu'Etc. est une coproduction France Inter avec Radio-Canada, la RTS et la RTBF. Merci donc à nos libraires francophones Annick Vermeaux, Marianne Bettina et Damien Hencourt. Merci aussi à toute l'équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Guillaume Fichu à la technique, Estelle Gap, Virginie Rouzic et Etel Alzial. Quant à moi, je vous souhaite une fois de plus une excellente année 2025 et vous dis à la semaine prochaine.